Bonsoir et bonsoir à tous. Merci pour me donner l'occasion de m'exprimer sur le sujet de protection des civils, qui est un sujet qui est à la fois passionné, émotionnel, pour lequel tous nous avons intuitivement une réponse ou un jugement sur ce qui se passe actuellement à Gaza. Malheureusement, dès qu'on parle de ça, dans le contexte de Gaza, on est invariablement traité de soutien au terrorisme et de soutien au diable pratiquement, et je n'exagère pas vraiment. Permettez-moi pour ce soir, et pour faire vite puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, de reprendre ma casquette d'ancien chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix à New York, où je me suis pratiquement consacré à la question de la protection des civils et qui était un des dossiers principaux que j'ai eu à traiter durant 2 ans à New York et que j'ai traité par la suite encore au service de l'Union africaine à l'école de maintien de la paix de Nairobi au profit de l'Union africaine. L'objectif de cet exposé sera de vous donner des éléments objectif, dépassionné, dépolitisé, impartiaux, qui vous permettent de juger dans quelle mesure on peut protéger les civils. Comme l'a dit le monsieur qui nous a introduit tout à l'heure, j'ai été formé à la lutte contre le terrorisme en Grande-Bretagne durant les années 80. J'ai écrit plusieurs livres à ce sujet et je peux vous dire que même en admettant ce que l'on pourrait discuter, mais qui n'est pas le thème de ce soir, qu'on ait affaire à une lutte contre le terrorisme à Gaza, il y a des centaines de possibilités de lutter contre le terrorisme sans massacrer une population. Des centaines. Et mon dernier livre, d'ailleurs, sur la lutte contre le terrorisme djihadisme, effectivement parle de ça. Pardon. Ah, pardon. Voilà. D'accord, on va faire comme ça. Je vais essayer de le faire un peu mieux. Voilà. Alors, parmi les différents éléments qui entrent dans le jugement de cette affaire, je me base sur des définitions officielles, sur des documents officiels. Donc je n'invente rien, tout ça est référencé au niveau des documents internationaux. Donc quand on parle de civils, tout d'abord, on parle de tout ce qui ne fait pas partie d'un groupe armé ou d'une force armée. Vous voyez que la définition est extrêmement large. Et quand on ne sait pas, parce que des fois il y a des doutes, et vous noterez d'ailleurs dans les images que dans la plupart des images qu'on a de ce qui se passe à Gaza, le Hamas a un uniforme et un insigne distinctif. C'est important de le dire parce que ça permet aussi d'éviter qu'on raconte un peu n'importe quoi. Et tous ceux qui ne portent pas ça, eh bien, sont au nom au terme du droit international, considéré comme des civils. Donc c'est important peut-être de le savoir comme encadrement. Maintenant, quand on parle de ce qui s'est passé à Gaza, ce sont ici les différents chiffres jusqu'au 18 janvier de cette année, c'est le nombre de victimes. Donc ici, c'est les chiffres des Nations Unies. Et ils sont sur mon tableau, 18 janvier, 24 620 civils tués. Les Nations Unies ont arrêté de donner des chiffres à partir du 8 décembre. Pendant le mois de décembre, ils ont encore donné toujours ce même chiffre de 7729 enfants tués. Le chiffre a probablement augmenté, mais les Nations Unies nous disent simplement que 70% des civils tués à Gaza sont des enfants, ce qui est un chiffre considérable. Par comparaison, vous avez ici cette ligne rouge qui montre l'évolution du nombre de civils tués entre le 7 octobre et le 29 décembre de cette année, de l'année passée, pardon, en Ukraine, pour les deux armées. Donc en tout, pour 2 ans de guerre, vous avez moins de 11 000 civils tués. Ce qui vous montre, alors qu'à Gaza, en 2-3 mois, on a 2 fois ce chiffre. Et concernant les enfants, c'est la ligne du bas, avec sa progression entre le 7 octobre et le 29 décembre. C'est à la fois, c'est pour toute la guerre en Ukraine, donc à la fois russe et ukrainien. Et vous voyez qu'on a affaire, en fait, à deux guerres de nature différente. Une dans laquelle, ici, effectivement, pour l'Ukraine, on peut parler de dommages collatéraux, alors qu'à Gaza, on n'est manifestement pas dans le dommage collatéral, et on va voir pourquoi. Le pourquoi s'explique en fait par la question de la manière dont on fonctionne. Le droit international évoque trois principes fondamentaux pour combattre dans des zones où il y a des civils. Le premier principe, c'est le principe dit de distinction, c'est-à-dire que on doit tirer uniquement lorsqu'on est capable de distinguer entre les civils et les militaires. Donc s'il y a il est interdit par exemple d'attaquer un objectif, même s'il est militaire, si on pense qu'il y a des civils dedans. Voilà, ça c'est un élément important. Et quand vous voyez par exemple des armes comme celle-ci, c'est une bombe au phosphore utilisée au-dessus de Gaza, vous comprenez bien que c'est une arme qui, elle, ne fait pas de distinction. Elle va toucher indistinctement, vous voyez ce cône de projectiles qui arrivent vers le sol, ces projectiles ne vont pas choisir entre civils et militaires. Donc on n'est pas dans le principe de distinction. Même chose lorsqu'on largue des bombes de 1000 kilos. Évidemment que vous apportez des destructions dans un quartier qui va ne pas faire de distinction entre civils et militaires, c'est une évidence. On y reviendra. Je pourrai répondre naturellement aux questions. Le deuxième principe, c'est le principe de proportionnalité. C'est-à-dire que les dommages que l'on cause doivent être proportionnels à l'objectif recherché. Alors, ici, je vous montre un exemple, qui est d'ailleurs un exemple illégal à part ça. C'est l'élimination de Salah al-Ruri à Beyrouth le 2 janvier de cette année. Et cette attaque était illégale parce qu'Israël a attaqué un État souverain. Qui a été l'objectif? C'est l'attaque d'un pays souverain et qui était illégale dans sa substance. Mais il est intéressant de l'examiner sous l'angle de la proportionnalité. Ils ont voulu tuer une personne, ils en ont tué 4 ou 5, ça c'est... Mais on est dans le domaine des dommages collatéraux. Vous voyez qu'ils ont visé l'appartement ou la maison dans laquelle se trouvait la personne. Alors que quand on a vu les images précédentes, pardon, on voit bien qu'on ne vise pas. Donc il existe une capacité, ils ont la possibilité de choisir, mais ils ne l'utilisent pas. Donc on n'est pas du tout dans le principe de proportionnalité. Et alors quand on regarde maintenant les chiffres de la... Alors c'est les chiffres que j'ai pris au 26 novembre. Je n'ai pas eu le temps de les actualiser, mais le principe, vous le comprendrez assez facilement. Au 26 novembre, Israël avait tiré 40 000 tonnes de bombes sur Gaza, avait causé déjà 14 800 morts civils et tué 1 000 à 2 000 combattants du Hamas. Alors si vous faites le compte, vous remarquez qu'il y a environ 10 civils tués par militant du Hamas tué. On n'est pas du tout dans l'exemple de la proportionnalité. Il y a environ 20 et 40 tonnes de bombes utilisées pour un militant du Hamas tué. Et finalement, il y a plus de 2 tonnes de bombes par civil tué. Vous voyez vous-même que ces chiffres sortent de la proportionnalité. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'est-ce qu'on soit pour ou contre Israël ou pour je ne sais pas qui. L'examen des chiffres nous dit tout simplement qu'on est hors du droit international. Point final. Mais il y a un troisième principe, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire que lorsqu'on a un doute, lorsqu'on ne sait pas qui on va toucher, si on pense qu'il y a des civils dans la zone où on va toucher, alors on s'abstient. Et on utilise une autre méthode. En admettant même qu'on fasse une lutte antiterroriste à Gaza, ce que je pense, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, mais de nouveau, on ne va pas discuter ça ce soir. Même en admettant ça, il y a bien d'autres manières pour tuer des militants du Hamas que de massacrer une population. Et donc, le principe de précaution devrait prévaloir. Or, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que c'est exactement l'inverse. On rend toute la population responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je n'invente rien, puisque ça a été dit par le président Isaac Herzog. Ça a été dit sous une forme différente, en citant la Bible, par Benjamin Netanyahou, qui a même dit « Va frapper Amalek, détruis tout ce qu'il possède, ne l'épargne pas, tue les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. » Et ce sont des choses qui ont été répétées par les soldats dans le terrain, ce qui signifie que ce ne sont pas simplement des mots vides qui ont été déclarés, mais ce sont des mots qui ont été répercutés jusqu'au niveau militaire le plus bas. Donc on est précisément dans l'absence du principe de précaution. Et d'ailleurs, on le voit. Alors peut-être l'image n'est pas si bonne, mais c'est une carte de CNN qui a recensé tous les impacts de bombes de 1000 kilos. Donc on n'a même pas compté les autres, seulement les bombes de 1000 kilos. Et vous voyez que si vous comptez que chaque bombe a un rayon de létalité, donc de mortalité, d'environ 400 mètres, vous pouvez vous imaginer ce que représentent tous ces petits nuages de points ici. Donc on est effectivement dans l'absence totale de... vous avez la référence en bas, si vous voulez le voir, d'ailleurs, ce ne sont pas des cartes que j'ai inventées. Alors on essaye de justifier ça. Mais en droit international, comme d'ailleurs dans le droit pénal normal, aucun crime ne peut en justifier un autre. Jamais. Vous ne pouvez jamais vous prévaloir d'un crime pour en faire un autre. Ensuite, les crimes des conflits précédents, qu'on évoque souvent, on dit oui, mais les alliés à Dresde avaient fait bien pire, ou bien même à Mossoul, les alliés ont fait bien pire. Ça n'est pas une justification. Déjà parce que, comme je l'ai dit, un crime n'en justifie pas un autre, mais aussi parce qu'on est dans des contextes différents. On est dans le cas d'abord de guerre d'agression, donc de toute façon on était déjà dans des situations qui étaient déjà illégales en elles-mêmes, c'est déjà la première chose. Et ensuite, on remarque que c'est des pays qui ont fait ça, sont des pays qui ont déjà une solide histoire de massacre de populations civiles. Quand c'est des populations du Moyen-Orient, on n'a pas beaucoup de... Le principe de précaution n'existe pas du tout. Et finalement, il y a un point qu'on ne dit jamais, mais Israël est en puissance occupante. Dans les territoires occupés, elle a le devoir de protéger la population civile. C'est une de ses obligations, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Ça fait partie de son obligation. Ce que n'avaient pas, alors à leur décharge, les Américains en Irak, etc., puisqu'ils étaient dans un cadre de conflit. Le conflit était illégal, on est d'accord, on ne revient pas là-dessus. Mais ils n'avaient pas cette obligation de protéger la population. Ils avaient des obligations en fonction du droit international de ne pas toucher la population. Donc on va pas, je ne cherche pas à les excuser ici, mais j'essaie simplement de montrer que Israël a une obligation supplémentaire, si j'ose dire, c'est qu'il a la responsabilité d'une population, la responsabilité d'assurer même son bien-être. C'est important, même son bien-être. Alors, on évoque souvent le droit d'Israël à protéger sa population. Et effectivement, Israël a le droit de protéger sa population. Il n'a pas le droit d'invoquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour se défendre, puisque cet article ne fonctionne que lorsqu'on a deux pays qui s'affrontent, deux pays qui sont belligérants. Or, Gaza n'est pas un pays. Si encore Israël avait reconnu la Palestine comme pays, il pourrait invoquer l'article 51. Mais comme ils ne l'ont pas fait, ils sont pris au piège de leurs propres défauts politiques, si j'ose dire, et ils ne peuvent pas invoquer cet article 51. Ceci étant dit, Israël a le devoir de protéger sa propre population, et c'est un devoir tout à fait légitime. Mais là aussi, le droit international lui donne des limites. Cette protection ne peut pas se faire aux dépens des Palestiniens. Par exemple, on a beaucoup parlé déjà du jugement de la Cour internationale de justice sur le mur de séparation entre Jérusalem et entre la Cisjordanie, pardon, et l'État d'Israël. Et cette protection est un préjudice à la population palestinienne en réalité. Et la sécurité d'Israël, de la population israélienne, elle est légitime, mais elle ne peut pas se faire aux dépens de la population palestinienne. Elle ne peut pas se faire aux dépens, il y a à peu près, n'oubliez pas, 100 000 arbres qui ont été détruits pour pouvoir construire ce mur. C'est-à-dire, tout ça, c'est des oliviers, c'est des citronniers, c'est une économie qui est partie avec ce mur. Et ça, de nouveau, c'est interdit par le droit international. Et a fortiori, pour ce qui est du cas de Gaza, cette protection ne peut pas signifier la destruction d'une population. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a bien d'autres méthodes pour lutter contre le terrorisme de bombarder des populations. Alors, on a parlé des enfants. Alors, comme j'ai beaucoup parlé déjà du conflit ukrainien, c'est pour ça que j'ai été connu ces deux dernières années, je voudrais revenir sur le problème des enfants. La Russie, et en particulier son président, le président Vladimir Poutine, ont été condamnés par... Enfin, pas condamnés, mis en accusation par la Cour pénale internationale pour avoir détourné ou enlevé les enfants et les avoir déportés vers la Russie. Un journaliste américain a retrouvé ces 6000 enfants qui venaient du Donbass. Et voilà ce qu'il a trouvé. Les enfants qui suivent une école, qui sont dans des hôtels, qui sont soignés. Pourquoi ? Parce qu'on les a écartés du champ de bataille. On ne les a pas enlevés, on les a écartés du champ de bataille, d'ailleurs avec l'accord de leurs parents. Quand on regarde en Cisjordanie, on a une image très différente. On voit des enfants qui reviennent des prisons israéliennes avec les bras cassés, avec des blessures. Je vous rappelle qu'il y avait même, maintenant j'ai plus le nom, c'est dans mon livre, mais il y a un ministre de la Défense israélien qui avait dit, à une époque, c'était pendant la deuxième intifada, il avait dit à ses soldats de casser les os des enfants palestiniens capturés. Donc on est très loin de respecter le bien-être des gens. Alors, conclusion. Le sens des forces armées est... Pour ceux qui ne le savent pas, je suis colonel de l'armée suisse, accessoirement, et j'ai aussi dirigé des unités de l'armée suisse. Le sens des armées, ça n'est pas pour délivrer des vengeances. Le sens des armées, c'est pour mettre la puissance militaire au service de politique, en partant de l'idée que la politique est raisonnable, qu'elle a une raison, qu'elle n'est pas... C'est pas des émotions, on fait pas de la vengeance quand on est dans une armée. On est là pour canaliser. La vengeance est une affaire, excusez-moi de le dire comme ça, de civil. Le militaire n'a pas le droit à la vengeance. L'éthique, la discipline sont là pour canaliser l'usage de la force et non pas la violence. Or, on s'aperçoit que malheureusement, ça n'est pas partout le cas. Ensuite, il n'y a pas qu'une stratégie possible pour combattre le terrorisme. Vous voyez, les Britanniques ont lutté contre le terrorisme en Irlande du Nord pendant quelques décennies. Ils n'ont pas eu besoin de détruire la population de Belfast. La même chose en Italie. Les Italiens ont éliminé les Brigades Rouges. Ils n'ont pas eu besoin de bombarder Florence ou Bologne. Ils ont réussi à le faire sans ça. Et c'était des terrorismes autrement plus complexes que le Hamas. Donc il n'y a pas qu'une seule stratégie possible. Il y en a des tas, et si on veut être honnête dans l'application d'une stratégie, alors il y a des solutions, et voilà. Ce qui signifie d'ailleurs que, pour moi, comme militaire, ça m'indique que le problème du terrorisme est un problème tout à fait secondaire, c'est un problème d'élimination d'une population. Et finalement, il y a quand même un élément qui me semble important, parce qu'on a tendance à oublier que le droit international qui a émergé de la Deuxième Guerre mondiale est en grande partie issu des malheurs que le peuple juif avait connus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et que, à mon sens, ces malheurs-là et le respect du droit international impliqueraient, de la part d'Israël, un devoir d'exemplarité et de respect du droit international. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Et finalement, j'aimerais terminer par cette citation de mon ami Peter Maurer, qui était président du Comité international de la Croix-Rouge. On ne met pas fin aux guerres avec des étiquettes de bon ou mauvais, mais avec un travail concret de réconciliation et de médiation. Terminé.